midi entre les frontières du Nord, la Bourgogne, la Franche-Comté, le centre-Val de Loire, le massif central et le sud-ouest, avec de bonnes rafales de vent, en particulier sur les côtes atlantiques. Le temps reste sec près des frontières de l'Est, mais le ciel est couvert et sur le nord-ouest du pays, nous aurons un ciel de traîne cet après-midi avec de nombreux nuages, quelques averses et des températures très contrastées. L'air froid résiste encore sur l'est du pays, avec 3 degrés cet après-midi à Strasbourg, 6 degrés à Lyon, 7 à Lille, mais le redoux se confirme par l'ouest du pays, avec 10 degrés cet après-midi à Tours, 9 à Paris, 15 à Bordeaux.
Merci Patricia, il est 11h, vous écoutez France Info. Et l'info, c'est avec Philippine Thibaudeau. Bonjour.
Bonjour. Marco Rubio atterrit à Genève en Suisse. Le secrétaire d'État américain retrouve des responsables ukrainiens et européens pour discuter du plan de Donald Trump pour la paix en Ukraine. Accord aligné sur les positions du Kremlin, ce que dément Washington. Volodymyr Zelensky a 4 jours pour l'accepter ou non, selon l'ultimatum lancé par Donald Trump. Et en marge du G20 en Afrique du Sud, les Européens ont tenté de s'organiser et de se greffer à cette réunion en territoire neutre, Marie Mollet.
Une fois encore, les Européens n'étaient pas dans la boucle de ce plan élaboré en secret par Washington et qui reprend largement les exigences du Kremlin. Alors ce matin, les négociateurs européens vont tenter d'amender ce plan, réécrire ce qui peut l'être face aux négociateurs américains. Le secrétaire d'État Marco Rubio et Steve Witkoff, l'émissaire diplomatique de Donald Trump, très à l'écoute de Moscou. Alors pour aider au dialogue avant la réunion, les leaders européens ont pris toutes les précautions de langage pour ne pas froisser Donald Trump. C'est un bon accord, dans le sens où il propose la paix, a dit Emmanuel Macron, mais c'est une base de travail qui doit se reprendre. Des réserves, exprimées avec des mots sous-pesés et des euphémismes. Hier soir, Emmanuel Macron a évoqué d'un mot ce qui serait pour lui inacceptable, l'imitation de l'armée ukrainienne en particulier. Et puis, autre priorité des Européens à Genève, les points qui les concernent directement, notamment la question des avoirs russes gelés ou des soldats de l'OTAN. Là non plus, ils n'avaient pas été mis au courant.
Marie Mollet pour France Info. La guerre en Ukraine au cœur de pourparlers alors que l'armée russe a revendiqué ce matin la prise de 3 nouvelles localités dans l'est ukrainien. L'ancien président brésilien Jair Bolsonaro reconnaît avoir utilisé un fer à souder pour ouvrir son bracelet électronique, lui qui a été condamné pour tentative de coup d'État. Il dit l'avoir fait par curiosité. Quand le juge dit que c'était pour s'enfuir, il l'a donc placé en détention provisoire. Des élèves moins fatigués et plus épanouis, c'est l'objectif de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Les 130 citoyens qui en font partie rendent aujourd'hui leurs recommandations. Ça comprend notamment un début de journée à 9h, école le mercredi ou encore passer de 2 à 3 zones de vacances. Non à Chine en France. Plus de 80 députés signent une tribune ce matin pour réclamer l'interdiction de la marque de fast fashion sur le territoire français pour, je cite, « protéger les travailleurs, la santé publique et la planète » dans un texte publié dans la tribune dimanche, soit 2 semaines après l'installation du magasin physique chino au BHV à Paris. Les prothèses mammaires en silicone peuvent déclencher des maladies auto-immunes. C'est ce que révèle une étude pilotée par le CHU de Besançon. En France, 400 000 femmes ont ce genre de prothèses, souvent après un cancer du sein. Les Bleus du 15 de France finissent l'année sur une bonne note. Ils ont battu les Australiens à la maison, au Stade de France, 48 à 33. Bilan 2025, les hommes de Fabien Galthié rentrent au vestiaire avec un ratio positif de 6 victoires contre 5 défaites. Et puis, plus aucun département en vigilance orange-neige et verglas a été levé il y a une heure pour les deux derniers départements concernés, le Puy-de-Dôme et le Cantal.
Merci Philippine. À suivre sur France Info, on va revenir sur cette nouvelle étude médicale dont vous parliez qui pointe du doigt un lien entre prothèse mammaire et développement de maladies auto-immunes. On va tout vous expliquer dans moins de 10 minutes. On va aussi parler santé avec vous, Julien Méniel, dans Les Experts à 11h20.
Aujourd'hui, je vous mets en garde contre ces produits ménagers qu'il ne faut surtout pas mélanger.
Eh bien, à tout à l'heure avec nos experts.
France Info, 10h-14h. Benjamin Fontaine.
Et après 2 semaines chaotiques marquées par un incendie, des intrusions de manifestants, la COP30 sur le climat est terminée à Belém, au Brésil. 200 pays ont signé l'accord qu'on va détailler tout de suite. Bonjour François Gemène.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes co-auteur du rapport du GIEC, chercheur spécialiste de la gouvernance du climat et enseignant à Sciences Po. Vous allez nous dire pourquoi, selon vous, cet accord n'est pas un bon accord. Mais d'abord, Sandy Dauphin, on précise que les pays en développement obtiennent un triplement des aides pour faire face aux dégâts causés par le dérèglement climatique.
Cette COP au cœur de l'Amazonie n'aura pas été un long fleuve tranquille, mais malgré l'absence des États-Unis, malgré les désaccords, le multilatéralisme a tenu bon, se félicite le président de la COP30, André Correa do Lago.
La circonstance géopolitique est tellement difficile que nous sommes vraiment heureux d'avoir uni tout le monde, 180 15 pays et de montrer que le monde prend au sérieux le combat du réchauffement climatique et surtout le monde veut continuer à travailler ensemble.
Reste que pour l'Europe, la déclaration finale manque d'ambition. Jean-Luc Cruc est le ministre fédéral belge du climat.
On n'a réellement pas obtenu le niveau des ambitions qui était celle de l'Europe et je crois qu'il faut être correct à cet égard. On retrouve, à mon sens, pas suffisamment de références à la sortie du fossile. On ne parle pas de déforestation insuffisante alors qu'on est en Amazonie et qu'il devrait savoir ce que c'est.
Toute autre tonalité, l'Inde juge l'accord significatif. Quant à la Chine, son chef de délégation se dit heureux du résultat de cette COP. Pékin s'inquiète des taxes carbone aux frontières, notamment celles de l'Europe. L'accord prévoit justement d'instituer un dialogue sur le commerce mondial. C'est une première dans les négociations climatiques.
Sandy Dauphin, envoyé spécial de France Info à la COP 30 au Brésil. François Gemène, vous qualifiez le texte final de la COP 30, je vous cite, de naze, archi nul. C'est parce qu'il n'y a rien sur la sortie des énergies fossiles ?
C'est clair, c'est un résultat qui est vraiment, vraiment calamiteux et qui est en dessous de tout. Il n'y a rien sur les énergies fossiles à part une référence oblique au consensus des Émirats de la COP 28 il y a deux ans. Il n'y a pas grand-chose non plus sur la déforestation. Et donc, en réalité, on a vraiment un texte qui est une coquille vide, qui cherche simplement à sauver les meubles et à donner l'illusion que le multilatéralisme est encore vivant. Et on voit bien pourquoi les délégués, notamment les délégués européens, ont accepté ce texte, parce qu'ils ne pouvaient pas, dans le contexte actuel, prendre le risque d'un échec diplomatique cuisant qui aurait en quelque sorte donné raison à Donald Trump. Mais le résultat, le prix est très très lourd à payer. C'est un recul majeur par rapport aux avancées des années précédentes.
Alors justement, vous parlez des Européens, je vous propose d'écouter Monique Barbu, la ministre de la Transition écologique, qui dresse un bilan mitigé.
Le processus était peu transparent, tout s'est fait dans des chambres fermées, avec peu de compréhension de ce qui se disait dans les différents groupes. Ce n'est pas une COP de la vérité, ce n'est pas une COP de la transparence. Le résultat n'est pas au niveau de nos attentes. Si ça avait été un vraiment mauvais accord, nous ne l'aurions pas signé. C'est un accord sans ambition, mais ce n'est pas un mauvais accord dans le sens où il y a des choses inadmissibles, si vous voulez, décrites dedans. Il ne casse rien, si vous voulez, des dynamiques précédentes. Pour nous, c'est effectivement tout ça pour ça.
Tout ça pour ça, dit la ministre Françoise Gemène. Est-ce qu'elle essaie un peu de sauver la face ?
Alors, quand vous entendez ce type de langage de la part de Monique Barbu ou de Jean-Luc Cruc qu'on a entendu auparavant, qui sont pourtant rompus à tenir des propos diplomatiques et policés, vous savez que le résultat est archi nul. En réalité, si vous lisez entre les lignes, et ce résultat est nul parce qu'il envoie un très mauvais signal aux acteurs économiques. Il faut bien se rendre compte que le résultat des COP, ce n'est pas tellement des engagements qui vont s'imposer aux États, c'est surtout des signaux qui sont envoyés au monde extérieur et notamment au monde économique. Et donc, quand on dit il y a deux ans qu'on va sortir des énergies fossiles, on envoie le signal aux investisseurs qu'il faut déplacer leurs investissements et investir dans les énergies bas carbone. Et là, si vous n'êtes même plus capable de reprendre ce terme d'énergie fossile dans le texte, eh bien, vous envoyez évidemment le signal qu'on peut encore continuer à investir pendant longtemps dans les énergies fossiles et que la fin des fossiles n'est pas pour demain.
Oui, que ça risque d'inciter les entreprises à poursuivre, à augmenter leurs investissements dans les énergies fossiles.
Mais bien entendu, ou même celles qui se disaient qu'ils allaient s'engager dans un processus de décarbonation parce que la législation allait arriver, parce que le monde était résolu à lutter contre le changement climatique, ben celles-là risquent d'attendre encore un peu en se disant qu'il n'y a pas urgence.
Mais pourquoi les Européens n'ont pas tapé plus fort du poing sur la table ?
Alors, ils l'ont fait à plusieurs reprises au cours des COP précédentes. Je me souviens de la COP 6 à 2000 à La Haye, où les Européens avaient carrément claqué la porte et les négociations ont été suspendues. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait ? Pour deux raisons. Un, parce qu'ils ne voulaient pas apparaître comme les méchants. Le problème, c'est que les pays émergents, s'ils veulent s'engager sur les énergies fossiles, demandent de l'argent en compensation des dégâts du changement climatique. Et les pays européens, aujourd'hui, n'ont pas cet argent à mettre sur la table. Donc, il faut mobiliser des capitaux privés. Mais pour le moment, les gouvernements n'ont pas cet argent. La deuxième raison, c'est qu'évidemment, ils ne voulaient pas donner raison à Donald Trump. Si la COP avait été un échec, eh ben Donald Trump aurait dit « Vous voyez, ces COP ne servent à rien. Je l'avais dit, ça ne sert à rien d'y participer. » Et donc, même si les États-Unis n'étaient pas là, leur ombre a clairement plané sur la conférence.
Vous parliez des signaux. Il y a une reconnaissance implicite dans cette COP que l'objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré est hors d'atteinte. Ça signifie quoi pour la crédibilité de l'accord de Paris ?
Alors, au départ, on savait que cet objectif d'1,5 degré était en réalité inatteignable. C'était surtout un gage de bonne volonté qui avait été donné il y a 10 ans aux représentants des petits États insulaires, pour qui c'était évidemment quelque chose de très très important. Mais on savait que cet objectif était inatteignable. Aujourd'hui, cet objectif, c'est un marqueur d'ambition politique, de la même manière que vous diriez zéro mort sur les routes en matière de sécurité routière. C'est simplement un marqueur d'ambition. Mmh. On sait que l'objectif est inatteignable d'un point de vue scientifique, mais ça reste un marqueur d'ambition politique. On voit bien un peu le décalage ici entre la bulle des négociations et la réalité.
Malgré tout, François Gemène, on l'évoquait avec Sandy Dauphin, ce texte mentionne, parmi les points positifs, un triplement de l'aide à l'adaptation pour les pays justement qui doivent faire face au réchauffement climatique et qui n'ont pas les moyens de financer les dégâts. Ça, c'est un vrai progrès ou c'est un lot de consolation ?
C'est un peu un lot de consolation. Alors, je suis d'accord pour dire que c'est un des rares points positifs du texte, mais le problème, c'est que comme on ne met pas d'argent sur la table, on en est réduit à faire des promesses, des intentions de plus en plus ambitieuses. Je préférerais sincèrement qu'on dégage un peu d'argent maintenant plutôt que de promettre un triplement d'ici 2035 sans préciser clairement comment et où on va trouver cet argent.
Enfin, pour terminer, le Brésil avait annoncé une COP qui serait un pont entre les pays du Nord, les pays du Sud moins développés. Est-ce que ça a été le cas, selon vous ?
J'ai envie de dire pas vraiment. On sent bien que
il
n'y
a
le
rien
texte
de bon, en fait, François Gemène, avec vous.
Franchement, c'est compliqué de trouver des choses à sauver dans cet accord. Alors, on sent bien que le texte, effectivement, satisfait les pays émergents. Ça me rappelle un peu le texte de la COP 15 à Copenhague, qui, là aussi, avait été un texte dicté essentiellement par les pays émergents. Et donc, qui, évidemment, insatisfait les Européens et qui est un texte qui impose très, très peu de contraintes et qui impose des signaux très, très faibles.
Merci beaucoup, François Gemène, pour votre réaction ce matin sur France
Avec
Info.
Plaisir.
À la fin de la COP 30 climat au Brésil et à ce bilan que vous jugez, on l'a bien compris, très mauvais, puisqu'il ne donne pas de bons signaux, notamment en vue de la sortie des énergies fossiles. Merci d'avoir été avec nous, 11h12. Une question maintenant, 15 ans après le scandale des prothèses mammaires PIP remplies de gel non conforme, les prothèses mammaires sont-elles vraiment sûres ? 400 000 femmes en portent en France, mais une étude inédite pilotée par le CHU de Besançon montre que ces implants en silicone provoquent une inflammation qui peut dans certains cas déclencher une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire s'attaque à l'organisme. Anne-Laure Danier, ces chercheurs ont analysé les prothèses d'une cinquantaine de femmes.
Ils ont prélevé des tissus dans le sein de 43 patientes qui devaient changer leur prothèse mammaire et ils ont découvert la présence de microparticules de silicone et de cellules du système immunitaire, celles qui sont chargées de nettoyer ces corps étrangers. L'équipe a aussi détecté l'activité de plusieurs gènes associés à des maladies auto-immunes comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Ils ont donc établi le lien entre la présence de silicone et une réponse immunitaire de la patiente. Mais il n'y a pas forcément de quoi s'affoler, rassure le docteur Isabelle Pluvy, qui a mené l'étude.
Le fait d'avoir de l'inflammation, ça ne veut pas dire forcément être malade. Toutes les patientes ont un petit niveau d'inflammation qui est plus ou moins intense selon le modèle de prothèse, par exemple, et selon l'état de la prothèse. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose pour lequel il faut s'inquiéter. Mais par contre, il faut réaliser comme un suivi régulier de ces implants pour dépister une éventuelle évolution vers ce type de maladie.
Le docteur Pluvy espère que sa découverte permettra d'améliorer ces implants mammaires en silicone pour en fabriquer une nouvelle version qui stimulera moins le système immunitaire des patientes.
Merci Anne-Laure pour ces explications et bonjour Jean-Baptiste Andréoletti.
Bonjour.
Vous présidez le syndicat national de chirurgie plastique. Quelle est votre réaction, vous, face à cette étude ? Pas d'affolement, dit le docteur Pluvy qu'on a entendu.
Alors, juste petite correction, je ne préside pas le syndicat, je suis membre du conseil d'administration et secrétaire général adjoint, mais je ne suis pas le président.
On va corriger.
Effectivement, je crois qu'il faut surtout se garder de s'affoler et de transmettre des messages négatifs, comme l'a dit Isabelle Pluvy, que je connais bien et qui a fait un travail remarquable. Pour le moment, c'est des premières constatations. On savait déjà que le gel de silicone pouvait donner des réactions inflammatoires. On savait aussi que l'enveloppe des prothèses en silicone pouvait libérer des petites particules. Mmh. Ce sont pas des choses qui sont nouvelles. Ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que ça montre effectivement, ça peut stimuler un certain nombre de gènes, une réponse immunitaire, mais ça n'a rien de surprenant et c'est des choses qui étaient déjà soupçonnées.
Ça pose quand même des questions.
Alors, les prothèses mammaires ont toujours posé des questions depuis très longtemps. Je crois qu'il faut juste rester extrêmement D'abord humble vis-à-vis de ce travail de recherche qui est une première et qui méritera d'avoir des travaux secondaires pour confirmer tout ça et puis savoir quel est l'impact réel de ces réactions inflammatoires qu'on connaissait déjà. Donc, je crois que pour le moment il faut juste rassurer les patientes qui sont porteuses de prothèses. Il n'y a pas de danger majeur. En revanche, le conseil de surveillance qu'a donné Isabelle, c'est vraiment du bon sens. Il faut effectivement que toutes les patientes porteuses de prothèses se fassent régulièrement surveiller, que si elles ont des signes de maladies inflammatoires ou de maladies auto-immunes, bien sûr, il faudra les explorer.
Mais est-ce que vous appelez à renforcer justement les protocoles de surveillance pour les 400 000 femmes qui portent aujourd'hui ces implants? L'étude recommande un suivi plus régulier.
Alors, le suivi régulier a déjà été préconisé et la Société française de chirurgie plastique ainsi que la SOFCEP ont déjà édité cette année des recommandations de surveillance des implants. Ça passe par des échographies régulières, ça passe par des contrôles cliniques réguliers. On conseille de revoir son chirurgien une fois par an. Et puis de faire effectuer des échographies de contrôle régulières, au besoin une IRM qui montre bien les clichés lorsqu'on a un doute sur l'échographie. C'est simplement ça, et je crois qu'il faut juste garder ça en mémoire, que toutes les patientes porteuses de prothèses soient rassurées, mais pour autant qu'elles fassent les examens nécessaires pour qu'on puisse dépister s'il y a une anomalie et s'il y a une rupture, et à ce moment-là, effectivement, envisager un remplacement.
L'étude du CHI de Besançon semble montrer aussi que l'enveloppe des prothèses n'est pas une barrière étanche, finalement, ce qui contredit le discours de certains industriels. Est-ce que vous comptez les interpeller sur le sujet ?
Non, parce que c'est des choses qu'on savait déjà. Je crois que on sait très bien que la barrière des implants mammaires en élastomère de silicone n'est pas totalement étanche, qu'il y a une certaine suffusion. Alors, on en avait largement parlé à l'époque du scandale PIP, puisque les éléments de contention, enfin les éléments barrières n'avaient pas été totalement mis en place sur ces implants. Je crois qu'on sait très bien qu'il y a une certaine suffusion. Aujourd'hui, on sait que ça n'a pas vraiment de manifestations cliniques qui soient inquiétantes. Il faut juste le contrôler. Mais on ne va pas pour autant aller lancer des procédures là-dessus. Je crois qu'il faut, pour le moment, raison garder
et prendre un peu de recul par rapport à l'étude. Vous avez évoqué, Jean-Baptiste Andréoletti, ce scandale des prothèses PIP qui, a 15 ans maintenant, on se rappelle de ces prothèses remplies avec du gel artisanal, pas du tout conforme aux normes. C'est du passé. Aujourd'hui, la profession est rentrée dans le rang.
Vous parlez de la profession des fabricants d'implants. Oui. Je crois que oui. À force de leur édicter des normes, ce qui était très surprenant dans l'histoire des PIP, c'est que les organismes de contrôle avaient été défaillants. Je crois qu'aujourd'hui, tous les fabricants de prothèses sont effectivement rigoureux sur la façon dont leurs implants sont conçus, sur la façon dont ils sont distribués. Après, nous, professionnels chirurgiens, on est bien obligés de faire confiance aux laboratoires qui nous fournissent les implants. On n'a pas de moyens de contrôle particulier, mais je crois qu'on peut aujourd'hui faire largement confiance aux fabricants d'implants qui sont surveillés et qui essaient de faire le mieux possible leur travail.
Merci beaucoup, Jean-Baptiste Andréoletti, président du syndicat national de la chirurgie plastique, pour votre éclairage, votre réaction sur France Info après cette étude qu'on vous révèle aujourd'hui sur ces prothèses mammaires en silicone qui peuvent déclencher des maladies auto-immunes. Vous appelez évidemment à prendre du recul par rapport à certaines choses que l'on connaissait déjà justement sur ces modèles de prothèses et vous appelez les femmes qui sont porteuses d'implants à être vigilantes et à se tourner vers leurs spécialistes si elles ont des inquiétudes.
Sur les assistants vocaux aussi, l'info, c'est France Info.
Il vous suffit de demander
Mais France Info.
Et vous êtes sur France Info.
Une bonne nouvelle pour la planète, la Chine annonce que sa capacité en énergie éolienne et solaire dépasse pour la première fois celle issue des installations thermiques. Le pays construit aujourd'hui près de deux fois plus de capacité éolienne et solaire que tous les autres pays réunis.
Sur les assistants vocaux,
France Info.
Pas juste l'info, l'info juste.
France Info, 10h-14h.
11h19 sur France Info, à la une du Fil Info, Philippine Thibaudeau, Donald Trump qui se dit ouvert à la discussion.
Lui qui a proposé un plan de paix en Ukraine, un document de 28 points qui vise à mettre fin au conflit mais qui ne plaît pas à Volodymyr Zelensky et à ses alliés. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé à Genève en Suisse. Il retrouve d'autres responsables ukrainiens et européens afin de négocier les termes de cet accord. 5 jours d'école, 2 zones de vacances et début des cours à 9h. Voilà les quelques propositions de la Convention citoyenne sur les rythmes scolaires. Les 130 citoyens formalisent l'adoption aujourd'hui de de 20 recommandations. Ce rapport sera remis ensuite au gouvernement, puis présenté aux parlementaires et élus locaux afin d'alimenter les débats des municipales. Jusqu'à 1 à 4 cm de neige relevée ce matin par Météo France en Ile-de-France, qui a connu son premier épisode hivernal de la saison. La vigilance orange-neige-verglas est levée pour l'ensemble des départements concernés. Et puis en Ligue 1 de foot, les Parisiens reprennent la tête du championnat. Le PSG a battu hier le Havre 3-0 et retrouvera la Ligue des Champions mercredi contre Tottenham.
France Info.
La vie au travail, la santé et le livre d'actu à lire cette semaine. On accueille nos experts Sarah Lemoine, Rémi Bostaron et Julien Méniel. Bonjour à vous trois.
Bonjour. Bonjour.
Sarah, au programme de C'est mon boulot.
À quoi va servir la première charte d'engagement pour la santé mentale au travail ?
Julien, vous allez nous expliquer pourquoi il ne faut pas mélanger certains produits ménagers. Mais avant tout ça, Rémi, le livre d'actu cette semaine. Et alors que l'avenir de l'Ukraine se joue peut-être en ce moment avec le plan de paix présenté par les États-Unis, vous nous proposez un récit, celui d'une femme ukrainienne engagée volontaire dans l'armée de son pays. Elle s'appelle Anastasia Fomichova et le livre s'appelle Volia aux éditions Grasset.
Oui, c'est le témoignage qu'il faut lire aujourd'hui pour comprendre ce que veut dire concrètement résister au quotidien pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes. Comme le disait Volodymyr Zelensky lui-même dans son allocution télévisée il y a deux jours, ce sont avant tout des êtres humains qui depuis 4 ans retiennent l'une des plus grandes armées du monde. Et parmi ces êtres humains, il y a donc Anastasia Fomichova, une jeune femme née à Kiev mais qui a grandi en France. Elle était étudiante à Paris en février 2022, quand l'invasion russe a commencé. Du jour au lendemain, sa vie a basculé. Elle a décidé de rentrer en Ukraine. Elle raconte ce voyage en bus, ce moment vertigineux où elle quitte notre monde, le monde des gens qui boivent un café, qui prennent le métro pour aller travailler, pour se retrouver des heures plus tard dans son pays natal avec, dit-elle, le sentiment de marcher vers la mort.
Un sentiment qui ne l'empêche pas de s'engager dans l'armée.
Non, elle s'engage comme infirmière de combat. Elle se retrouve au plus près de la ligne de front et elle fait dans ce livre le récit de tout ce qu'on découvrirait comme elle si on se retrouvait soudainement plongé dans la guerre, le contact avec le métal froid d'une arme qui devient pour elle comme un doudou rassurant, les instructions qu'elle doit donner pour ses funérailles, l'argent qui n'a plus aucune valeur, les pensées parfois surprenantes qui lui traversent l'esprit quand elle se dit qu'à tout moment un obus peut mettre fin à sa vie, et puis tous ces corps fracassés, ensanglantés qu'elle doit manipuler, une horreur qu'elle affronte avec de l'humour noir omniprésent, et avec cette fameuse Volia, qui est le titre du livre. Volia, c'est un mot ukrainien qu'on peut traduire à la fois par volonté et par liberté.
Et ce livre, c'est aussi un message qu'elle nous adresse.
Oui, à nous qui sommes loin de ce quotidien qu'elle raconte, nous qui n'avons pas connu comme sa famille et toutes les familles d'Ukraine les souffrances infligées par l'impérialisme russe depuis plus d'un siècle, la famine des années 30, la terreur stalinienne, Tchernobyl. Elle nous le dit, si nous sous-estimons cette menace mortelle, si l'on refuse d'ouvrir les yeux, alors les ténèbres continueront à gagner du terrain. Et comme un écho au débat de ces derniers jours sur la préparation des Français à la possibilité d'une guerre, elle rappelle que les Ukrainiens non plus n'étaient pas prêts à rejoindre les tranchées. Mais face à la Russie, ils n'ont pas eu le choix.
Volia, le témoignage d'Anastasia Fomichova aux éditions Grasset. Merci Rémi. Des nouvelles du monde de l'entreprise avec vous maintenant, Sarah, avec la signature de la première charte pour la santé mentale au travail. 150 entreprises l'ont signée. À quoi s'engage-t-elle maintenant ?
Eh bien, les entreprises qui ont signé cette charte jeudi soir vont devoir structurer un plan d'action sur 3 ans. Premier objectif, faire sauter les tabous autour de la santé mentale en communiquant largement sur le sujet auprès des salariés et du comité de direction. Ensuite, former les managers et développer une culture de dialogue permanent sur les conditions et l'organisation du travail. Elles devront aussi améliorer continuellement les organisations du travail. Enfin, il leur faudra accompagner individuellement leurs salariés en souffrance psychique. Pour mesurer les progrès accomplis, les 150 entreprises signataires s'engagent à sonder une fois par an leurs salariés sur les actions menées. Les données permettront également de comparer les pratiques et d'être une source d'émulation. Le premier questionnaire partira courant 2026.
Quel est le profil des entreprises qui ont signé cette charte ?
Alors certaines sont déjà très engagées sur la question, d'autres moins, souligne Angèle Malâtre-Lansac, déléguée générale de l'Alliance pour la santé mentale, l'organisation à l'initiative de cette charte. Parmi les signataires, des groupes privés, des structures publiques, mais aussi de petites et moyennes entreprises. Parmi ces dernières, on trouve le bureau d'architecte INIA, qui emploie 90 salariés. Il s'est engagé sur la santé mentale il y a 10 ans, en acceptant d'aider au retour à l'emploi de personnes qui ont eu des troubles psychiques graves. L'entreprise a déjà mis en place un certain nombre de procédures en interne. Elle a aussi revu des façons de travailler. Mais Brice Piechazik, l'un des fondateurs d'INIA, dit rester humble face à ce sujet. Selon lui, la population des architectes est confrontée à des rythmes de travail intenses, des relations parfois tendues avec les clients. Il constate une sursensibilité au stress bien plus forte qu'il y a 10 ou 15 ans. Dans le cadre de la charte, il compte notamment former plus spécifiquement ses deux responsables des ressources humaines à la santé mentale.
Oui, en signant cette charte, certaines entreprises cherchent aussi à se situer par rapport à d'autres.
Oui, c'est le cas d'Éric Dana qui dirige CMPS, une entreprise d'assurance en protection sociale. Lui, il souhaite savoir comment le sujet de la santé mentale au travail est abordé et traité dans d'autres secteurs d'activité que le sien, afin d'enrichir les solutions qu'il a mis en place dans sa société. Selon lui, l'entreprise est un SAS qui doit permettre d'identifier et d'alerter sur le mal-être d'un salarié, sachant que l'entreprise peut en être aussi la cause. L'objectif de l'Alliance pour la santé mentale est d'atteindre 3000 organisations signataires d'ici 2028.
Pour le moment, on est donc à 150. Il y a du chemin. Merci Sarah. C'est mon boulot sur France Info. Parlons santé maintenant, Julien Méniel. Julien, vous nous expliquez aujourd'hui pourquoi il ne faut pas mélanger certains produits ménagers.
Oui, si vous êtes adepte des petits conseils de ménage sur les réseaux sociaux, par exemple, vous avez sûrement déjà entendu tout un tas de conseils différents, dont celui-ci. Utilisez un mélange de bicarbonate de soude et du vinaigre blanc pour nettoyer vos surfaces. Et pourtant, si ces deux produits peuvent effectivement être efficaces séparément, ils ne le sont plus du tout si on les mélange.
Et pourquoi ?
Et bien parce que la réaction chimique que ça provoque, même si elle génère une petite effervescence qui peut éventuellement décoller la saleté, elle annule surtout les propriétés respectives des deux produits. Pire, si vous forcez la dose, ça peut créer des projections et vous n'avez pas envie d'avoir du vinaigre dans les yeux.
Non.
Voilà, et attention, ce mélange est loin d'être le plus problématique.
Il y en a d'autres qu'il faut éviter ?
Oui, pour rester juste sur le vinaigre blanc, par exemple, son association avec de l'eau oxygénée, ça crée de l'acide peracétique qui est irritant à la fois pour la peau, les yeux et les muqueuses. Mmh. Et mélangé à de l'eau de Javel, le même vinaigre crée un dégagement de chlore gazeux qui peut entraîner des intoxications. De la même manière, si vous utilisez de l'eau de Javel et un produit à base d'ammoniac, vous allez fabriquer des chloramines qui peuvent gravement irriter les voies respiratoires et provoquer des suffocations.
Ah oui.
Et c'est pas fini, eau de Javel plus alcool ménager égale chloroforme et acide muriatique, très toxique aussi, etc., etc. Et pas besoin de faire le mélange dans une bouteille pour que ce soit dangereux. Le simple fait d'utiliser les deux produits successivement sur une surface ou dans la cuvette des toilettes, par exemple, bah ça peut suffire.
Ah oui, ça fait beaucoup de cocktails à éviter. Comment on peut retenir tout ça ?
Alors, vous avez compris déjà, ne pas mélanger d'eau de Javel avec tout autre produit.
Ouais.
Et globalement, dans le doute, ne mélangez aucun produit ménager et ne les utilisez pas les uns juste après les autres. Et puis, deux derniers conseils, avant d'utiliser un produit d'entretien pour la première fois, même sans parler de mélange, jetez un œil à l'étiquette, lisez bien les recommandations, vérifiez les petits pictogrammes. Et quand vous faites le ménage, pensez à bien aérer la pièce dans laquelle vous êtes. D'ailleurs, n'attendez pas d'avoir la serpillière en main, ouvrez vos fenêtres au moins 10 minutes tous les jours, même en hiver, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, l'air est souvent plus pollué à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Bon, c'est bien noté. Des bonnes infos avant le grand ménage du dimanche. Merci Julien. Je rappelle qu'on retrouve vos conseils vidéo sur les réseaux sociaux de France Info. Merci les experts. À la semaine prochaine. À suivre la météo et le journal.
Chez Orange, on sait que pour Charline, un appart...
Bah ça se protège.
Mais pour elle, protection rime avec...
Noël sans un rond.
Alors pendant le Black Friday, Orange Maison Protégée, alarme et télésurveillance 24h sur 24 est à partir de 18€ par mois pendant un an, puis 30€ par mois, soit 40% de remise.
Pas si cher.
Orange est là.
Valable jusqu'au 3 décembre inclus pour toute première souscription. Engagement 12 mois, préavis de résiliation de 3 mois. Orange Télésurveillance, titulaire d'une autorisation CNAPS. Conditions sur orange.fr ou au 3972. Service gratuit plus prix d'un appel normal. Black Friday, vendredi noir.
Ils bousculent les idées reçues, ils font bouger les lignes, ils se confient à Paul Larouturou. Découvrez pour info le nouveau podcast vidéo sur la chaîne YouTube de France Info.
Personnalités connues ou moins connues, ils viennent partager avec moi leur histoire, leurs convictions, leurs engagements.
Pour info, présenté par Paul Larouturou, le podcast vidéo qui met en lumière ceux qui racontent notre époque.
À retrouver sur la chaîne YouTube de France Info et sur l'application Radio France.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Après la neige, la pluie, Patricia Charbonnier.
Changement de temps pour aujourd'hui avec le retour de la pluie sur une bonne partie du pays et cette dégradation pluvieuse s'accompagne d'un très net redoux sur une large moitié ouest. Le froid résiste encore un petit peu pour cet après-midi sur le grand est du pays. On va retrouver cette zone de pluie entre les frontières du nord, la Bourgogne, la Franche-Comté, le centre-val de Loire jusqu'au sud-ouest avec des pluies localement soutenues qui s'accompagnent de bonnes rafales de vent, en particulier sur l'arc atlantique. Le temps reste sec mais sous un ciel couvert près des frontières de l'est avec quelques averses de neige sur le nord des Alpes et des averses de pluie sur la Corse et sur le nord-ouest du pays. Nous aurons un ciel très changeant avec alternance de timides éclaircies et d'averses, avec des températures donc très contrastées. L'air froid résiste sur l'est du pays, avec seulement 3 degrés cet après-midi à Strasbourg, 4 à Dijon, 6 degrés à Lyon, 7 à Lille. Mais le redoux se confirme partout ailleurs, avec 9 degrés cet après-midi à Paris, 11 à Marseille et 17 à Biarritz.
Merci beaucoup Patricia, bonne fin de matinée. Bon dimanche, vous écoutez France Info, il est 11h30. L'info avec Philippine Thibaudeau.
Et 6 mois de travaux et aujourd'hui 20 propositions pour améliorer le temps scolaire des enfants. La Convention citoyenne les présente aujourd'hui. Parmi elles, un début de journée retardé à 9h pour les collégiens et les lycéens. Cours théorique le matin, pratique l'après-midi ou encore une semaine de 5 jours au lieu de 4. Ce sont des recommandations, pas des obligations. Elles seront soumises au président de la République et aux élus locaux. Le gouvernement qui travaille à un nouveau service militaire, c'est ce que déclare ce matin sur France Info Alice Ruffo, la ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, confirmant une information de la Tribune dimanche. Cette version basée sur le volontariat était demandée par Emmanuel Macron et déjà expérimentée dans plusieurs pays d'Europe. Le volontariat, c'est aussi le mot-clé de l'accord final de la COP30 qui s'est terminé hier pour accélérer l'action en faveur du climat. Un texte décevant pour les Européens sans qu'il y ait de mention directe à la sortie des énergies fossiles. Ukrainiens, Américains et Européens sont en Suisse ce matin. Objectif, discuter du plan de Donald Trump pour installer la paix en Ukraine. Un plan trop en faveur des Russes, qui ne plaît pas à Volodymyr Zelensky. Il prévoit notamment de réduire de moitié l'armée ukrainienne et que l'Ukraine cède à la Russie certains territoires. Des territoires que continue de grignoter Moscou. La Russie revendique ce matin 3 nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine. Au Vietnam, le bilan monte à 90 morts en une semaine. Le pays est frappé par des pluies diluviennes, notamment dans le centre où les eaux ont inondé des dizaines de milliers d'habitations. Il va parler pour la première fois depuis sa libération. Boualem Sansal s'exprimera ce soir dans le journal de 20h sur France 2. L'écrivain franco-algérien a été gracié par l'Algérie la semaine dernière après avoir passé presque un an en détention. Et puis Emmanuel Macron rend hommage à Robert Birenbaum, mort hier à l'âge de 99 ans. Sur le réseau social X, le président salue, je cite, un résistant qui avait porté au plus haut la lutte pour la liberté, l'égalité et la fraternité.
Merci Philippine Thibaudeau, 11h32.
France Info Sport avec Omiris. Alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS à Grecknaps.
France Info Sport, bonjour Noureddine Zidane.
Bonjour Benjamin.
On débute avec la Formule 1 avec un petit coup de théâtre au Grand Prix de Las Vegas.
Et la disqualification des deux pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri. Ils s'étaient classés ce matin 2e et 4e, mais les commissaires ont constaté des irrégularités sur leur monoplace, ce qui relance totalement la course au titre mondial à 2 Grands Prix de la fin. Max Verstappen, vainqueur ce matin à Las Vegas, revient à 24 longueurs du leader du classement pilote, Lando Norris, donc, alors qu'il reste encore 58 points à distribuer.
En rugby, le 15 de France termine l'année par un festival offensif.
Oui, et pour le plus grand plaisir des spectateurs du Stade de France, 12 essais, dont 7 pour les Bleus qui se sont imposés 48-33 contre l'Australie hier, en conclusion d'une tournée d'automne, au bilan malgré tout mitigé pour le sélectionneur Fabien Galthié.
On a joué 3 matchs face à des beaux adversaires, des très beaux adversaires. Il y a des bonnes choses et des choses moins bonnes. Je pense qu'on a besoin, pour être à la hauteur, un peu plus de temps ensemble et de vécu ensemble. C'est comme ça. Mais après, une fois de plus, si on est avec vous, chaque match vous a posé des problèmes. Mais c'est pas l'inquiétude, non. Il y a de la matière. On a bien identifié les formes de travail qui doivent nous amener à progresser. Il nous reste 17 matchs avant la Coupe du Monde.
Une Coupe du Monde qui se tiendra dans 2 ans en Australie et dont le tirage au sort des groupes aura lieu dans 10 jours. En top 14 de rugby, c'était la 10e journée et Toulouse s'impose à Montauban 49-7. Les champions de France reprennent la tête du championnat devant Pau et Toulon qui se déplacent ce soir à Paris pour défier le Stade français.
La Ligue 1 de foot et hier, tout le monde n'a pas préparé de la même façon les prochains rendez-vous de Ligue des Champions.
Oui, ce sera mardi et mercredi. D'un côté, le Paris Saint-Germain sans de nombreux joueurs joueur cadre a déroulé face au Havre 3-0 et retrouve sa place de leader avec deux longueurs d'avance sur l'OM. De l'autre côté, Monaco a coulé à Rennes 4-1 avec un petit événement, Jean-Pierre Bimeau, le grand retour sur les terrains de Paul Pogba.
Il est 20h18, Paul Pogba part s'échauffer. À 20h40, il entre sur la pelouse. Le Roizen Park l'acclame comme rarement un joueur adverse ne l'a été. Preuve de l'immense popularité du champion du monde qui n'avait encore jamais joué en Ligue 1 française.
Ça m'a vraiment touché de voir ce public vraiment se lever et applaudir. J'imaginais pas en fait. Je voulais essayer d'apporter une bonne énergie et prendre du plaisir bien sûr parce que je suis soulagé d'avoir repris le football, ce que j'aime le plus au monde.
Dans les tribunes, même les supporters de Rennes sont émus, comme Alban, 25 ans. Il en avait 18 quand Pogba l'a fait rêver à la Coupe du Monde en Russie.
C'est quand même un joueur qui a ramené la Coupe du Monde pour la France, donc c'est plutôt sympa. À part avoir applaudi, on est content de le revoir.
Dans les coulisses, Paul Pogba prend le temps devant les micros et parle posément, comme si les épreuves l'avaient rendu plus fort.
Malgré tout ce qui s'est passé, toutes les histoires en dehors du football, c'est moi qui ai souffert le plus. T'as des moments où le diable, il essaye de parler dans ta tête pour dire c'est fini, mais il y avait toujours espoir et j'ai toujours gardé espoir.
Avec le temps additionnel, Paul Pogba a joué une dizaine de minutes pour son retour. Elles compteront énormément dans sa reconstruction.
Pour Lens, ce qui va peut-être compter énormément, c'est sa victoire 1-0 contre Strasbourg. Lens garde ainsi le contact avec l'OM au classement et distance de 6 longueurs désormais les Alsaciens, qui sont sous la menace de Lille, qui accueille à 20h45 le Paris FC en clôture de la 13e journée de Ligue 1. L'enjeu pour le LOSC, c'est de remonter au pied du podium. Il faudra pour cela être plus efficace devant le but, d'après l'entraîneur nordiste Bruno Genesio.
Je trouve que notre équipe joue très très bien. Nos approches de la surface sont dans l'ensemble très bonnes. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, de mieux finir nos actions, de se créer plus d'occasions nettes par rapport au jeu qu'on fait et forcément de marquer plus de buts pour concrétiser nos matchs en victoire.
Enfin, dernière répétition avant le championnat du monde aux Pays-Bas de handball pour l'équipe de France féminine. C'est à 19h contre le Japon. Les Bleus entameront la défense de leur titre mondial vendredi contre la Tunisie.
Merci Noureddine. 11h36 et à suivre d'ici midi, le difficile financement des associations d'aide aux migrants qui voient les subventions publiques et les aides privées fondre comme neige au soleil. Reportage dans 10 minutes. On va aussi revenir sur le succès de Demon Slayer. Le film d'animation vient de battre un record au box-office mondial pour un manga japonais. Nous sommes avec le président de Sony Pictures, le distributeur du film, dans un quart d'heure.
France Info, 10h-14h, Benjamin Fontaine.
Le service militaire suspendu il y a bientôt 30 ans est-il en passe de faire son retour en France? Le chef de l'État pourrait faire des annonces très bientôt. Il s'agirait, selon le journal La Tribune, de recruter des jeunes pour un service militaire volontaire payé, 50 000 personnes d'ici 10 ans. Les réflexions sont en cours, confirme sur France Info ce matin la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo.
Je confirme que depuis le 13 juillet dernier, quand le président s'est exprimé à l'hôtel de Brienne pour son discours habituel, traditionnel, il a demandé au ministère des Armées de travailler sur un cadre d'engagement renouvelé. Et donc oui, je confirme qu'il y a des travaux en ce sens. Vous avez parlé de volontariat. Je pense que c'est effectivement un mot-clé. Et je veux peut-être juste un peu donner des éléments d'explication et de contexte. Vous le savez, dans plusieurs pays européens, en ce moment, des réflexions là-dessus. La semaine dernière, j'ai reçu mon homologue suédois, qui est un modèle qui est en train d'être développé dans pas mal de pays européens. Bon, tout le monde y travaille, donc nous aussi on y travaille.
C'est cette semaine que ça va être annoncé ?
Ça, je sais pas.
Alice Ruffaut, 50 000.
On y travaille, oui.
50 000 personnes, 50 000 volontaires d'ici 2035, c'est un horizon qui est réaliste.
Alors, vous savez, on a déjà dans la loi de programmation militaire telle qu'elle a été votée, parlé de l'augmentation de la réserve opérationnelle. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on constate quand même ? On constate, qu'il y a quand même une vraie volonté d'engagement. Voilà, elle existe, on peut avoir des débats, des polémiques, etc., mais il y a une volonté d'engagement. Deux, il y a différentes formes d'engagement. Il y a l'engagement militaire qui implique quand même des risques et des sacrifices très importants. Il y a d'autres formes d'engagement aussi qui peuvent être utiles et d'autres formes de compétences qui peuvent être utiles. Et la deuxième chose qu'on observe, c'est que face à la conflictualité qui est la nôtre, il y a beaucoup de compétences qui sont requises dans beaucoup de cadres. Et qu'on doit absolument les utiliser. Une de nos très grandes forces, en Europe et en France en particulier, c'est qu'on a une jeunesse qui a des compétences technologiques, qui a des compétences qui doivent absolument pouvoir trouver un cadre pour notre défense commune.
Mais très concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, tiens, j'ai un enfant de 18 ans, ou même des jeunes qui nous écoutent, ça consiste en quoi? C'est 10 mois où on va servir concrètement dans l'armée dans le but de l'intégrer, ou 10 mois dans le but de faire partie de la réserve, ou 10 mois juste une expérience comme ça pour voir à quoi ça ressemble?
Vous venez très bien de résumer les choses, il y a différents cadres. Après, il est clair, et moi je travaille au ministère des Armées, que le métier des armes est un métier particulier et qu'il est possible de s'y engager, mais sur une base évidemment volontaire. Après, il y a d'autres formes d'engagement qui sont utiles à la défense du pays, qui peuvent être sollicités.
Il faut que ce soit rémunéré un peu quand même, on disait 900, 1000 euros par mois.
Ah bah écoutez, je vous dis que juste qu'on y travaille, mais ça sera vraiment au président de le faire. Non, ce qui compte, c'est de faire confiance à la jeunesse et de lui donner les moyens d'avancer. Donc oui, y compris de cette manière-là.
Alice Ruffo, la ministre déléguée aux armées, invitée du 8-30 France Info avec Mathilde Siro et Adrien Beck. Vous retrouvez son interview en vidéo et en intégralité sur franceinfo.fr. Il faut que ça s'arrête, c'est le message entendu à Marseille et dans une vingtaine de villes hier dans les rassemblements contre le narco-banditisme organisés à l'appel d'Amin Kessassi, dont le frère a été assassiné la semaine dernière. 6000 personnes l'ont rejoint à Marseille et parmi eux, de nombreux jeunes inquiets de voir le climat de leur ville se détériorer. Ils se sont confiés à Tristan Barraud.
Trois amis venus au rassemblement, Swan, Lison et Olympe, ont entre 14 et 15 ans. Ils habitent à Marseille, à côté du quartier où Mehdi Kessassi a été tué par un commando armé à l'âge de 20 ans.
Et c'est quand même très jeune. Pour la famille, pour tout le monde, c'est dur. Donc nous, on vient vraiment pour soutenir, pour montrer que ça peut arriver à tout le monde et qu'on veut juste que ça s'arrête. Parce que si ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à nous, à tout le monde. On n'a pas envie que ça continue et surtout, on n'a pas envie que la rue, qui est le milieu le plus public et banal, qu'on ne se sente pas en sécurité dans notre propre ville, dans notre propre quartier. On veut stopper ça, quoi.
Alors que la justice étudie la piste du crime d'intimidation visant le frère de la victime, un militant anti-narcotrafic connu, les trois jeunes se sentent directement concernés par la problématique.
Autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans la drogue et moi, ça me fait vraiment peur d'être dans le quartier et de ça. Même quand je marche, on ne se sent pas super en sécurité.
Dans la rue, il y a souvent ce stress où on se dit faut vite rentrer, on ne sait jamais. Ou même, on préfère prendre les transports en commun, les bus, tout ça, parce qu'on sait qu'il y a plein de monde. Mais des fois, on passe dans les rues, on voit qu'il n'y a personne. Il n'y a pas non plus une peur constante, mais quand même, on sait qu'il faut un peu tracer, quoi.
La peur à certaines heures, dans certains quartiers, Lucie, la vingtaine, là aussi, cette Marseillaise regrette un manque de perspective positive dans la lutte contre le narcotrafic.
Il y a énormément de jeunes, en effet, à la dérive, qui se font happer en fait, par ce phénomène qui dépasse un peu tout le monde et qui se met à toucher des personnes qui n'ont en effet rien à voir. Là où avant, dans l'imaginaire collectif, la mafia, c'était un peu un dérèglement de compte, un genre d'entre-soi où ça ne touchait pas le public à plus grande échelle. Et aujourd'hui, ça fait des victimes vraiment collatérales partout. Et ça, c'est inadmissible et on est complètement contre ça.
Dénoncer les ravages du trafic de drogue, c'était l'un des objectifs de ce moment de recueillement. Difficile néanmoins d'envisager des solutions pour Lison.
Même c'est dangereux, même pour la police, tout ça. Mais je pense que c'est un truc qu'il faut quand même régler vite parce que on voit que ça touche de plus en plus de civils.
D'autres personnes venues au rassemblement m'ont dit qu'il faudrait un débat national sur la question du narcotrafic.
Le reportage France Info à Marseille de Tristan Barraud, 11h42. Et cette question maintenant, est-il devenu trop clivant de financer des associations d'aide aux migrants? À en croire certains responsables du secteur en France, la réponse est oui, avec des donateurs privés qui quittent le navire et des subventions publiques en baisse, Agathe Mahué.
C'est ce que dit l'association française Singa, présente dans 10 pays et qui vise à mieux intégrer les personnes exilées grâce à des financements essentiellement privés. Son président Benoît Hamon affirme que 30% du budget de l'association a été remis en question en un an, notamment à cause du climat actuel aux États-Unis.
Nous subissons la décision de plusieurs grandes entreprises internationales présentes sur le marché américain de se désengager des causes que jusqu'ici elles finançaient en matière d'inclusion des personnes réfugiées. On a eu des déclarations de l'administration américaine, Donald Trump lui-même, très hostile à la diversité, à l'inclusion et des intimidations en direction des entreprises américaines ou européennes présentes sur le sol américain. pour qu'elles arrêtent leur politique de mécénat ou leur politique d'inclusion.
Résultat, c'est inédit, Singa passe aussi cette année par une cagnotte citoyenne.
On est obligé, c'est la première fois qu'on le fait, de faire appel à une campagne de financement participatif pour aller demander aux Français qui pensent que l'importance de révéler les talents et le potentiel des nouveaux arrivants est une question importante. On leur demande de compenser les reculs de nos financements.
De nouveaux alliés, toutefois, se manifestent dans la tempête, explique Benoît Hamon, citant la Fondation Crédit Mutuel, par exemple, qui vient de s'engager pour la cause à rebours du climat actuel. Toutes les associations d'aide aux migrants ne reposent pas forcément sur ce type de mécénat, mais même les subventions publiques semblent devenues frileuses pour ces causes, analyse le président de la Fédération des acteurs de la solidarité, Pascal Brice.
On voit bien que ces actions-là et ces politiques sont au cœur de ce qu'on pourrait appeler la bataille culturelle en cours, aux États-Unis comme en Europe. Quand vous voyez tous les débats idéologiques sur l'assistanat, je mets les guillemets, ou quand vous voyez les crispations autour de la question des étrangers, je vous confirme qu'il y a effectivement un raidissement du débat public qui, à mon avis, est l'une des raisons pour lesquelles les associations de solidarité subissent une baisse de leurs subventions.
Un repli tel qu'une association de solidarité sur trois est aujourd'hui menacée en France, d'après le dernier rapport de la Fédération.
Agathe Mahuet pour France Info. À suivre, après le rappel de l'info en une minute, le succès du manga Demon Slayer au cinéma. Le film vient de battre un record.
France Info, 10h-14h.
Et à midi moins le quart, à la une, Philippine Thibaudot, la paix en Ukraine qui se joue aujourd'hui en Suisse.
Les responsables américains, européens et bien sûr ukrainiens se retrouvent à Genève. Objectif, négocier l'accord de paix proposé par Donald Trump que rejette Volodymyr Zelensky, le président américain qui s'est dit ouvert à la discussion. La Convention citoyenne sur les temps de l'enfant a rendu ses recommandations, des propositions tout à fait souhaitables et envisageables. Salut ce matin sur France Info, la première fédération nationale des parents d'élèves. Elles comprennent notamment un début de journée à 9h plus qu'à 8, une semaine à 5 jours plutôt qu'à 4, ou encore deux zones de vacances au lieu des 3 existantes. Sur les routes, circulation normale cette nuit et ce matin, malgré la neige et le verglas, salue le ministre des Transports, Philippe Tabarot, qui reconnaît des accidents dans le Nord et en Île-de-France, avec notamment 4 blessés dans un accident dans l'Oise. La vigilance orange est levée aujourd'hui pour l'ensemble des départements concernés. Et puis en rugby, Toulouse prend la première place du top 14. Le club a battu facilement hier Montauban, 49-7 pour le compte de la 10e journée. Le Stade français affronte aujourd'hui Toulon, coup d'envoi 21h05 au stade Jean Bouin à Paris.
France Info.
J'ai perdu mon chemin en voulant progresser. Prends ma main, je pourrai avancer.
Si les noms de Tanjiro et Nezuko Kamado vous disent quelque chose, alors c'est que vous faites peut-être partie des fans de Demon Slayer, ce manga japonais dans lequel un jeune homme tente de rendre forme humaine à sa sœur transformée en démon. Le film, adapté du manga, est sorti en salle en septembre en France. Il fait un carton dans le monde entier. La Forteresse Infinie est devenu le film japonais le plus rentable de l'histoire, Matteo Maestrachi.
La soirée est si belle, tu ne trouves pas ?
Plus de 2 mois après sa sortie dans les cinémas français, Demon Slayer, la forteresse infinie, est toujours à l'affiche, comme dans ce grand complexe qui borde la Seine à Paris, où l'on retrouve Laurine, qui vient le voir pour la 2e fois.
J'ai vraiment adoré le premier visionnage, j'ai adoré la musique, les émotions, j'ai vraiment retrouvé toutes les sensations qu'on avait dans les premières saisons, donc... Voilà, c'est pour ça que je vais le revoir une 2e fois.
Et comme Laurine, ce sont en tout plus d'1 800 000 tickets qui ont été vendus pour le film, le 10e long métrage au box-office français de 2025. Dans une année pourtant marquée par une fréquentation en forte baisse, Demon Slayer cartonne en fait depuis sa première parution en 2016. 23 tomes de manga en librairie, une série animée de 3 saisons. La 4e arrive bientôt, visible notamment sur Netflix. Et donc des adaptations au cinéma, des animations qui ont réussi à sublimer l'œuvre papier selon Didier Passamonique, commissaire de l'exposition manga présentée en ce moment au musée Guimet à Paris.
Le manga lui-même, il est très très bien fait, il est très passionnant, mais il n'a rien d'exceptionnel. Ce qui a été exceptionnel avec Demon Slayer, c'est le dessin animé. Le dessin animé qui a fait ce score incroyable que vous racontez, c'est un des plus beaux dessins animés de l'histoire du dessin animé japonais. La qualité de l'animation, c'est au-dessus de tout.
comme Naruto ou One Piece, qui comptent aussi évidemment leur version animée et sont d'autres grandes réussites commerciales, Demon Slayer est une référence de shonen manga qu'on peut traduire par bande dessinée pour jeunes garçons, même si Laureen prouve que ce succès n'est finalement pas si genré.
C'est vraiment une histoire typique d'un tout ce qu'on aime chez les shonen. Moi, j'avais d'abord lu le manga notamment, j'ai ensuite pris l'animé et je suis d'accord pour dire que le film embellit vraiment les pages du manga. C'est un plaisir à regarder, quoi.
Demon Slayer, la forteresse infinie, est en tout cas devenue avec plus de 100 milliards de yens de recettes dans le monde, 556 millions d'euros, le film japonais le plus rentable de l'histoire. Le prochain chapitre au cinéma est prévu pour 2027.
Ce combat interminable pourrait bien toucher à sa fin durant cette nuit.
Merci Matteo Maestracci et bonjour Stéphane Huard.
Bonjour.
Vous êtes le président de Sony Pictures France qui distribue le film chez nous en France. Comment vous expliquez-vous cette performance historique au box-office? Qu'est-ce qui a permis à Demon Slayer d'avoir un tel impact?
Alors, il faut d'abord savoir que c'est un succès mondial, comme vous l'avez dit. C'est le film qui est numéro un au Japon aujourd'hui de l'histoire du cinéma, alors que le Japon est un pays qui va beaucoup, beaucoup au cinéma et beaucoup de productions locales, donc c'est un vrai phénomène à part entière. En France, ça l'est également. Vous savez qu'on est le territoire au monde après l'Asie et les États-Unis, qui apprécient le plus les films animés du Japon. Et Demon Slayer a vraiment surperformé cette année, effectivement.
Et ça vient de quoi, alors, selon vous?
Alors, on est probablement devant un phénomène nouveau, mais qui s'explique par plein d'éléments. D'abord, une vraie sympathie pour la culture japonaise en France, cette éducation qui a été faite par l'animation à la télévision dans les années 70, 80, 90, qui a créé ce berceau d'appréciation de l'animation japonaise. Et puis, la lecture du manga, la lecture de la bande dessinée fait partie de nos forces.
Mais ce n'est pas la première fois qu'un manga est adapté au cinéma. On a vu Naruto, One Piece, il y a un petit quelque chose en plus, j'imagine.
Eh bien écoutez, le phénomène s'amplifie en fait. Avec One Piece, on avait dépassé le million de spectateurs en salle, ce qui était déjà un record il y a quelques années. Et là, avec Demon Slayer, La Forteresse Infinie, on est encore au-delà. Et je crois que vous l'avez mentionné dans votre interview, la qualité du film a sublimé le spectateur. On est sur une note spectateur de 4,3 sur 5, ce qui fait partie des chefs-d'œuvre d'animation.
Avec des effets spéciaux, effectivement, réussis aussi. Le film a attiré, donc on l'a dit, plus de 89 millions de spectateurs hors Japon. Est-ce qu'il y a des succès dans certains pays qui vous ont étonné chez Sony, au-delà de la France?
Alors, on voit qu'en Europe occidentale, l'animé se développe très bien. L'Allemagne fonctionne également fortement. On a le développement de l'Angleterre, mais très clairement, la France reste leader et c'est ça qui est intéressant. On a un terrain d'appréciation de grande qualité avec beaucoup de fans qui se mobilisent. Ils viennent souvent en cosplay, ils viennent souvent pour faire la fête. Et c'est le rôle du cinéma d'attirer les jeunes en groupe qui viennent vivre une expérience que les adultes ne comprennent pas toujours.
Cosplay, on le rappelle que c'est lorsqu'on se met dans la peau d'un personnage, qu'on se costume dans la peau d'un personnage de manga. Comment vous travaillez avec les studios japonais pour réussir justement à préserver l'esprit du manga dans l'adaptation au cinéma? Il y a une collaboration très étroite?
Alors les Japonais sont extrêmement protecteurs de leur film et effectivement ils font une attention tout à fait détaillée à chaque élément de communication. Donc on travaille de façon précise sur chaque élément, que ce soit l'affiche, que ce soit la communication sur les réseaux sociaux ou même les petits cadeaux qu'on va distribuer. Les fans sont très contents de recevoir des preuves de reconnaissance de leur venue avec des petits cadeaux qu'on leur donne aux séances, ce qui est assez particulier sur ces films-là. Et donc la relation avec le Japon, elle se développe au fur et à mesure. Au début, ils travaillaient surtout pour eux et maintenant ils travaillent pour le reste du monde et c'est ça qui est très intéressant.
Et est-ce que ces succès peuvent pousser aussi les Américains à s'intéresser un peu plus à l'animation japonaise, selon vous?
Il faut qu'elle soit japonaise, hein, donc la question est dans la réponse.
Donc c'est plutôt non?
C'est plutôt non, et effectivement, il faut être très respectueux des originales. À chaque fois qu'une autre nationalité essaie de s'aventurer sur ce qui n'est pas sa culture, on voit que les fans s'en rendent compte très vite et il faut faire très attention.
Un troisième long métrage est prévu pour 2027, vous confirmez?
Oui, c'est ce qu'on nous a dit. La Forteresse Infinie est le premier d'une trilogie, donc on devrait avoir encore deux films.
Est-ce qu'il y a d'autres mangas qu'on pourrait voir arriver comme ça en France au cinéma?
Écoutez, on a par exemple le mois prochain, le 6 et 7 décembre, la sortie de nouveaux épisodes de Jujutsu Kaisen, que les fans connaissent très bien également et qui est très attendu. Chainsaw Man vient de sortir, est encore sur les écrans. Donc, on a des propositions assez régulières au cinéma maintenant, ce qui plaît beaucoup aux fans.
Donc, on va continuer à voir du manga au cinéma en France et partout dans le monde. Merci beaucoup, Stéphane Huard, président de Sony Pictures France, d'avoir été avec nous. Vous êtes le distributeur de Demon Slayer au cinéma. Demon Slayer, film le plus rentable de l'histoire de l'animation japonaise.
C'est mon assiette, avec Présence Verte, la téléassistance en France. Restez en sécurité 24h sur 24 et 7 jours sur 7, où que vous soyez. Plus d'infos sur présenceverte.fr.
Et on passe à table avec vous maintenant, Bernard Thomasson, mais pas n'importe laquelle. On part à Versailles, rejoindre le chef étoilé Jean-Baptiste Lavergène Morazzani. Il nous conseille un restaurant thaïlandais.
Né à Versailles avec des origines corses, Jean-Baptiste Lavergène Morazzani est issu d'une famille de restaurateurs. Il a appris auprès de grands comme Yannick Aleno avant de s'installer à son compte à 23 ans et d'obtenir aussitôt l'étoile Michelin. C'est un jeune chef très inventif.
Je veux que mes cuisiniers y cuisinent, que mes pâtissiers pâtissent et qu'ils ne soient pas dans une case. Je veux qu'ils fonctionnent aussi à l'instinct, donc on a vraiment une cuisine comme ça. On essaie qu'elle soit vivante, qu'elle soit acide, qu'elle soit amère, qu'elle soit tiède, chaude, froide, vous voyez, mais il faut qu'elle vive, quoi. Nous, on a toujours été très branchés sur le végétal. C'est vrai qu'on a un plat tout autour de l'oignon qu'on retravaille presque comme une viande. On arrive à trouver des textures, des goûts presque animaux, quoi. C'est d'autant plus bluffant pour un client de se faire surprendre par un oignon que par un filet de bœuf ou agneau, vous voyez ce que je veux dire.
Jean-Baptiste, vous nous conseillez une table sympa à Versailles?
C'est un restaurant thaïlandais qui s'appelle l'Éléphant d'Argent. Tout est fait sur place, ça me régale de voir ça.
L'éléphant d'argent se trouve au cœur de Versailles, passage des deux portes, juste à côté de la place du marché. Il appartient à Guillaume Théa et à sa femme Lee.
On a racheté, c'était un restaurant cuisine française avant, en 2003. Il a transformé, on a changé en cuisine thaï. Et on est d'origine du Cambodge, cambodgien, mais on fait la cuisine thaï. Il y a une telle ressemblance en cuisine thaï et cambodgienne. Depuis notre arrivée en France, on est là-dedans, quoi. On est dans la restauration. J'ai travaillé pour les autres et après, j'ai décidé de me mettre à mon propre compte.
Ici, la salle ne désemplit pas. Les clients reviennent à l'image de Patrice.
Très, très bon. C'est le meilleur. Sur Versailles, on mange uniquement ici.
Et on mange quoi en général? Vous mangez quoi, vous?
Tout ce qu'il y a sur la carte, on a tout essayé. J'aime bien salade aux fleurs de bananier.
Entrée à 8 euros, plat à 17, dessert à 8 et une formule déjeuner en semaine proposée pour 16 euros. Lee, la patronne, défend sa cuisine.
Tout est bon ici. Ce qu'on fait, c'est notre spécialité. Hein. On n'a pas beaucoup de plats.
C'est quoi les plats principaux?
Fruits mets à l'ail au poivre, fruits mets à l'échalote. Après, vous avez des currys rouges, du curry vert, des plats au lait coco. Et aussi, il y a des plats sautés.
L'éléphant d'argent, un restaurant thaï où tout est fait main à Versailles, recommandé par le chef étoilé de la Table du 11, Jean-Baptiste Lavergène Morazzani. Les entretiens sont à réécouter dans leur intégralité sur franceinfo.fr à la page « C'est mon assiette ».
Et on lance maintenant la playlist du service culture de France Info. Trois coups de cœur à découvrir tout au long de la journée. Et Yann Bertrand, vous avez choisi le nouvel album d'un certain Disease.
Nous l'avions connu en tant que Disease la peste il y a plus de 25 ans avec un tube resté dans les annales chroniques du burn-out et de la misanthropie, je pète les plombs. Mais depuis quelques années, Disease a fait sa mue, évoluant en artiste pop à la sensibilité et au romantisme exacerbé, comme le prouve ce 14e album tout juste sorti, On s'en rappellera pas. Lequel contient notamment ce titre, Mélodrama, en duo avec la nouvelle star Théodora.
Tout à ton bonheur de vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation.
Les relations amoureuses ou tout simplement le sentiment amoureux sont le carburant essentiel de ce disque, une nouvelle fois très personnel. Disease s'y raconte en profondeur, son enfance, ses failles, les drogues, les amours physiques et platoniques. Et par moments, la résurgence d'un flot acide et politique, comme sur le morceau « Fin ».
Pilote auto, la tête à l'envers, la pure hollandaise. Vers les étoiles, je file à l'anglaise. Vers les vents chauds, très loin des Vendées. Brunet la tempête, j'estime mes pampères. Je descends en passant, je serai pas remplaçant. Toujours au tel ou en déplacement. La vie que je mène, c'est sans relâchement. T'es dans la ligne blanche, moi je tiens la distance. J'ai la vista et j'ai la liste. J'ai la grinta, s'ils égalisent. C'est quand on perd qu'on prend des risques. Ils voulaient me faire, mais je l'ai mise. Tous les fachos, les Julie Lesco, les hommes sauvages, t'as le droit de de l'asco, c'est pas stylé de mettre la hagla. L'amour vaincra pas ton armada. Putain, j'étouffe, j'suis comme à la main. L'époque rend ouf, donc j'la me da. Faut que j'me barre de là, faut que j'me barre de là. Mais ça ferait plaisir à ce bar de là.
Un album né de toutes ses inspirations, chansons françaises, rock, électronique ou hip-hop. This Is poursuit son évolution et fait durer le succès.
La haine est représentant de haut en bas, de bas en haut. T'as fait l'ENA, tu fais l'euro, tu fous la haine, tu fais le beau, tu fais des ronds dans la chicha. Tu fais le dos rond, tu veux pas de ficha. La vie tourne en boucle comme trois petits chats. Je suis sous tasse, ne prends pas cette offre. Tu ne sauras jamais ce que ça fait d'être pauvre. Machallah, au moins j'étais pas moche. Quelques diables ont voulu me faire les poches. Me balafrer quand je me baladais. Je m'arrête là, je vais te faire bader.
This Is de retour avec un nouvel album et en concert à La Rochelle en décembre et l'an prochain à Rouen, Grenoble ou encore Roubaix.
France Info sur les réseaux sociaux.
Une actu qui s'écoute, se regarde et se partage.
Suivez-nous sur WhatsApp,
TikTok,
Instagram,
X,
Facebook,
Snapchat,
LinkedIn,
YouTube
ou Twitch.
France Info, pas juste l'info, l'info juste.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
C'est un dimanche tout gris, Patricia Charbonnier.
Changement de temps pour aujourd'hui avec le retour de la pluie sur une bonne partie du pays. Et cette dégradation pluvieuse s'accompagne d'un très net redoux sur une large moitié ouest. Le froid résiste encore un petit peu pour cet après-midi sur le grand est du pays. On va retrouver cette zone de pluie entre les frontières du nord, la Bourgogne, la Franche-Comté, le centre-val de Loire jusqu'au sud-ouest avec des pluies localement soutenues qui s'accompagnent de bonnes rafales de vent, en particulier sur l'arc atlantique. Le temps reste sec mais sous un ciel couvert près des frontières de l'Est, avec quelques averses de neige sur le nord des Alpes et des averses de pluie sur la Corse. Et sur le nord-ouest du pays, nous aurons un ciel très changeant avec alternance de timides éclaircies et d'averses, avec des températures donc très contrastées. L'air froid résiste sur l'est du pays, avec seulement 3 degrés cet après-midi à Strasbourg, 4 à Dijon, 6 degrés à Lyon, 7 à Lille. Mais le redoux se confirme partout ailleurs, avec 9 degrés cet après-midi à Paris, 11 à Marseille et 17 à Biarritz.
Merci beaucoup Patricia. Vous écoutez France Info, nous sommes le dimanche 23 novembre, il est midi. Et l'info à midi.